L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste, correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir le général Dominique Delavarde, ancien chef situation renseignement et guerre électronique à l'état-major interarmée de planification opérationnelle de l'armée française. Avec lui, nous allons analyser les derniers développements de la situation en Ukraine. Nous nous pencherons en particulier sur la prise d'Artyamovsk, ou Bakhmout, comme on l'appelle, et ses conséquences sur la suite de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine. Enfin, nous traiterons l'évolution de la situation mondiale, aussi bien en termes géopolitiques que géoéconomiques, et son impact sur le continent africain à l'approche du sommet Russie-Afrique fin juillet à Saint-Pétersbourg. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. La tombée de la ville d'Artyamovsk au Bakhmout entre les mains de l'armée russe annonce un changement radical dans la suite de l'opération militaire spéciale en Ukraine. En effet, cette ville stratégique était censée être le point de départ de la contre-offensive de l'armée ukrainienne en préparation depuis des mois avec l'aide des Occidentaux et de l'OTAN. Par ailleurs, l'économie russe ne s'est pas effondrée comme l'annonça l'élite politique et économique occidentale. Bien au contraire, la Russie a enregistré des records aussi bien en production industrielle et agricole locale, accompagnés par un recul important du chômage, aussi bien qu'en termes de commerce extérieur aussi, et avec l'Union européenne en particulier. Ce qui fait dire à de nombreux analystes que ça est en partie la raison pour laquelle la Russie n'est pas pressée d'en finir en Ukraine, étant donné que le temps joue en sa faveur, aussi bien sur le plan militaire qu'économique. Le tout dans un contexte où les BRICS prennent de plus en plus de poids économique et politique, qui donne de plus en plus envie à des pays dans les quatre coins du monde, notamment du Sud, à vouloir rejoindre ce groupe ou du moins s'arrimer à lui. Alors, tous les développements sur ces questions dans quelques instants avec mon invité, le général Dominique Delavarde, ancien chef situation renseignement guerre électronique à l'état-major interarmée de planification opérationnelle de l'armée française. Général Dominique Delavarde, bonjour et merci de nous avoir honorés en nous accordant cet entretien.
Oui, bonjour à tous et merci de m'avoir invité.
Tout le plaisir est pour nous. Alors, la Russie n'a pas déclaré de mobilisation générale de ses forces pour mener son opération. Elle n'a utilisé jusqu'à présent que 12% de ses soldats, 10% de ses avions de chasse, 7% de ses chars, 5% de ses missiles et 4% de son artillerie. Et alors que la ville d'Artyamovsk est finalement tombée entre les mains de l'armée russe, les analystes militaires occidentaux, pro-OTAN et pro-ukrainiens, continuent d'expliquer que l'opération spéciale est un échec. Alors, qu'en pensez-vous? Et quelle est votre analyse sur la conduite des opérations sur le terrain et sur la situation militaire sur le terrain?
Alors bon, prétendre que l'opération spéciale russe est un échec est une gigantesque farce. C'est tout sauf un échec. Je n'ai jamais vu, moi, une armée de 150 000 hommes attaquer sur un front de 2600 km. Ça n'existe pas. Donc, ce qu'ils ont réussi à faire avec très peu d'hommes au début de l'opération était déjà quelque chose comme un exploit. Depuis ce temps-là, les forces russes ont resserré le dispositif pour le densifier, ils ont mobilisé de nouveaux hommes, et ça n'est probablement pas fini. Les Russes, pour l'instant, tant que l'Ukraine et l'OTAN, surtout l'OTAN, refuseront de négocier, je pense que la Russie va continuer tranquillement, sereinement, à avancer en territoire. La Russie ne demande qu'une chose, hein, c'est à vivre en sécurité. Elle a demandé depuis longtemps, depuis décembre 2021, elle avait demandé aux Occidentaux par une lettre de se réunir et avait posé un certain nombre de conditions qui lui semblaient indispensables pour sa sécurité. Bon, les Occidentaux ont traité la demande russe par le mépris. Et la Russie a été tout naturellement contrainte d'intervenir comme les États-Unis auraient été contraints d'intervenir si le Mexique ou le Canada avaient demandé à faire partie du pacte de Varsovie à l'époque de l'ex-Union soviétique. Donc pour l'instant, ce à quoi nous assistons, c'est en fait une opération qui dépasse largement les frontières de l'Ukraine. L'Ukraine, ça n'est qu'un une petite partie d'un bras de fer mondial aujourd'hui et qui oppose deux camps. Le camp de la Russie, mais aussi de tous ses amis BRICS qui souhaitent un monde multipolaire. Donc, de l'autre côté, le camp de l'OTAN qui ne regroupe que 12% des habitants de la planète, qui veulent garder l'hégémonie mondiale et qui font tout, y compris par la force, pour essayer de parvenir à leur fin. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette guerre, ça n'est pas l'Europe contre la Russie, elle est suscitée par quelques hommes, quelques individus aux États-Unis, qu'on appelle les néoconservateurs, qui sont parfaitement identifiés au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Économie pour les sanctions économiques. Ces gens-là sont des néoconservateurs, c'est-à-dire des gens qui veulent absolument conserver pour les États-Unis l'hégémonie mondiale. Mais cette guerre, ça n'est pas la position de tous les États-Unis, de tous les habitants des États-Unis et de toutes les populations et habitants de l'Europe. En Europe, ce sont les dirigeants qui ne représentent pas la totalité de leur peuple. Sur le sujet de la Russie, il n'y a pas une unité du camp occidental, ça n'est pas vrai. Hein, aux États-Unis, je connais personnellement beaucoup de gens éminents qui sont contre cette guerre et qui considèrent qu'elle n'aurait jamais dû avoir lieu. Hein, je citerai en quelques noms comme le très célèbre géopoliticien John Mearsheimer, qui fait régulièrement des conférences, pratiquement toutes les semaines dans le monde entier, pour prêcher contre cette guerre, pour expliquer pourquoi cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu. Alors c'est vrai aux États-Unis, mais c'est vrai chez nous aussi. Hein, vous savez, bon, y compris parmi mes camarades anciens militaires, comme moi, hein, qui ont fait la guerre froide, à une époque où l'ex-Union soviétique représentait ou était perçu comme un danger en Europe et outre-Atlantique, beaucoup de mes camarades aujourd'hui considèrent qu'on a tout faux, quoi. C'est-à-dire qu'on a entrepris une guerre, on avait beaucoup écrit là-dessus avant que la guerre ne démarre. On a entrepris une guerre, un bras de fer qu'on est assuré de perdre. Parce que cette guerre est existentielle pour la Russie et parce que, surtout, nous n'avons pas les moyens de la gagner. Pour gagner une guerre, il faut une population unie, il faut des moyens militaires suffisants et on ne les a pas. On ne les a pas. Il faut des hommes, de l'entraînement, des armements majeurs. On ne les a pas. Hein, et puis, bien sûr, il faut une économie qui tourne. Et aujourd'hui, dans tous ces points, ça ne fonctionne pas très, très bien chez nous.
D'accord. Bien. Alors, la question suivante. En 1999, l'OTAN a mis 78 jours de bombardement contre la Serbie, qui est 8 fois plus petite que l'Ukraine et 6 fois moins peuplée, et dans un rapport de force de plus de 10 contre 1. Pour demander à ce petit pays donc, de signer l'armistice, le tout sans aucun mandat légal de l'ONU. Alors, pour ceux qui disent que cette opération spéciale a échoué, est-il réel d'attendre de l'armée russe d'atteindre ses objectifs en quelques semaines, sachant qu'elle fait face à une armée sœur, donc qui connaît, les deux armées se connaissent très bien, elles ont pratiqué les mêmes armements, ils parlent la même langue, la même religion, et puis ils ont les mêmes techniques de combat.
Oui, non. Moi, je crois que la Russie n'a pas voulu se presser, elle n'a pas voulu attaquer, comme elle l'a dit elle-même, hein. Elle ne faisait qu'une opération spéciale, c'est-à-dire qu'elle ne faisait pas la guerre. elle avait en face d'elle des frères, des gens qui parlaient la même langue, même les Ukrainiens de l'Ouest. Ceux de l'Est, bien sûr, parlent le russe, mais ceux de l'Ouest aussi parlent majoritairement le russe. Hein. Zelensky parle parfaitement le russe. Hein. Donc, il est certain que quand on attaque ou quand on fait une opération de police, parce que c'est parti comme une opération de police, hein, c'est pas parti comme une guerre, on ne veut pas nécessairement faire des pertes dans une population sœur, ce qui n'était pas le cas en ex-Yougoslavie. En ex-Yougoslavie, les Occidentaux avaient une population qui n'était pas, qui était, on va dire, plutôt liée à l'Est, et donc il n'y avait aucun lien de parenté directe, sauf que.
Mais c'est une nation européenne.
Oui, sauf que la Serbie avait été une alliée fidèle de la France lors des deux guerres mondiales, et donc on a une fois de plus, au moins pour les Français, lâché un bon allié en attaquant la Serbie. Voilà. Mais bon, c'est vrai que le rapport de force, si vous voulez, que quand je regarde les Américains quand ils ont envahi l'Irak, un petit pays de 20 millions d'habitants, hein, ils sont arrivés avec une coalition et 700 000 hommes. Ils sont pas partis à l'aventure pour un pays pourtant beaucoup moins peuplé que l'Ukraine, hein, plus de deux fois moins peuplé que l'Ukraine. Ils ont attaqué avec 700 000 hommes. Ils avaient rassemblé 700 000 hommes. Ils avaient six groupes porte-avions dans la région. Et un groupe porte-avions, c'est 70 avions. Donc ils avaient 420 avions rien que pour les États-Unis, sans compter le reste des avions de l'OTAN pour bombarder l'Irak. Donc ils attaquaient vraiment du fort au faible. La Russie a attaqué dans un rapport de force défavorable, et c'est ce qui fait l'exploit de ces résultats. C'est un exploit.
Et puis le savoir-faire en termes de l'art opératif.
Oui, oui, ils ont réussi un exploit à attaquer à 1-3 pour attaquer, et surtout pour attaquer victorieusement, il faut être normalement à 3-1. Mais lorsqu'on attaque dans des zones urbanisées et fermement défendues, comme dans le Donbass, comme à Artémios, là, le rapport doit être normalement de 5-1. Et ce rapport n'a jamais été réalisé sur le terrain. Normalement, un ennemi installé, il résiste à 1-3. Et là, à 1-1, la Russie, tranquillement, a réussi à conquérir la ville. Donc, sur le plan militaire, si vous voulez, on a affaire à des forces entraînées, des forces bien commandées, des forces qui ont une bonne coordination entre les feux d'artillerie et les fantassins sur le terrain qui occupent le terrain au fur et à mesure de la conquête par l'artillerie. Bon, c'est du beau boulot, hein, c'est du beau boulot.
D'accord. Mais maintenant, depuis que donc Bakhmout ou Artyomovsk est tombé, il y a les déclarations des dirigeants occidentaux qui parlent de livraison d'avions F-16 à l'Ukraine pour faire participer à cette contre-attaque. Donc, ils envisagent de former à la va-vite des pilotes qui pourraient piloter ces avions. Encore, faut-il savoir si ces avions sont encore opérationnels ou non. Sont-ils encore adaptés au système, comme en termes de contre-mesure au système anti-aérien russe. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oh, je pense que l'histoire des avions, c'est comme le reste, c'est de la communication. Les Occidentaux, comme ils savent pas faire grand-chose sur le plan, comme ils ne peuvent pas faire grand-chose eux-mêmes sur le plan militaire. S'ils pouvaient, ils l'auraient fait. Ils seraient en guerre. Et s'ils n'y sont pas, c'est qu'ils veulent pas y aller. Et s'ils veulent pas y aller, c'est qu'ils savent qu'ils perdraient. Hein, donc là, pour l'instant, ils font une guerre de l'information, c'est-à-dire qu'ils parlent beaucoup, mais au bout du compte, les choses tardent à arriver. Ils envoient du matériel à dose homéopathique, c'est-à-dire à petite dose, 10 chars par-ci, 10 avions par-là, qui va se faire détruire en arrivant sur le champ de bataille. Pour les forces russes, c'en est presque amusant, quoi, de voir arriver petit à petit, parce qu'il vaut mieux détruire ces moyens progressivement et petit à petit que de les avoir d'un seul coup. S'ils étaient arrivés tous d'un seul coup, ils auraient peut-être eu un effet. Mais là, il n'y aura pas le moindre effet. Il n'y aura pas le moindre effet si ce n'est que les Occidentaux, petit à petit, se séparent d'un matériel qui aurait pu leur servir le jour où ils en auraient vraiment besoin. Moi, je vois, pour les forces françaises, les matériels, on n'en a pas des centaines de milliers. Moi, je suis rentré dans l'armée en 1968 comme officier. À l'époque, l'armée française toute seule avait 1400 chars. Aujourd'hui,
200.
L'armée française, c'est 200 chars.
Ouais.
200 chars. Et il y en a 200 en Allemagne, pas plus. Et il y en a 200 en Grande-Bretagne. Le total fait 600 et on n'est pas sûr qu'ils fonctionnent parce qu'ils sortent très peu, ils sont sous cocon dans la plupart des cas. Donc on n'est pas très sûr que tout ça va très bien fonctionner le jour où il va falloir s'en servir. Donc on ne fait pas la guerre. L'OTAN n'est pas en mesure de faire la guerre avec 600 chars, ça n'est pas vrai.
Et en plus de ça, général, ces chars, les chars qui ont été livrés. Moi, je ne suis pas militaire, mais à votre avis, sans couverture aérienne, est-ce qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose sur le terrain?
Vous avez tout à fait raison.
Un char, il peut pas y aller comme ça.
La guerre de haute intensité aujourd'hui, il faut bien sûr la supériorité aérienne. Celui qui n'a pas la supériorité aérienne, il va pas très loin. On se souvient de la Deuxième Guerre mondiale. C'est la supériorité aérienne, et là, la supériorité aérienne russe, elle est totale. Alors, bien sûr, vous me direz, et c'est ce que les Ukrainiens de Kiev essayent de montrer aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils peuvent, avec des drones, etc., ils peuvent pénétrer dans le territoire russe et faire péter quelques pétards mouillés, quoi. C'est de la communication. On est dans la communication, on n'est pas dans la guerre. Sur le plan de la supériorité aérienne et anti-aérienne, la supériorité russe est totale.
Dans ce cas-là, même si on envoie les avions, sont les grands moyens de guerre électronique et de moyens de neutraliser les contre-mesures anti-aériennes, que peuvent faire ces avions à partir de quelques obus avant d'être abattus?
Exactement. Donc on est dans la communication. On essaye d'occuper le terrain et de convaincre nos populations que c'est la Russie qui attaque, qui nous en veut vraiment. La preuve, c'est qu'elle descend nos avions et nos chars. Non, c'est pas très sérieux tout ça. On est actuellement dans une mauvaise communication, d'ailleurs, qui ne convainc plus personne. Même les Ukrainiens aujourd'hui savent pertinemment qu'ils vont perdre. Ils le savent. Je vois pas comment on pourrait faire autrement. Et tous les grands experts, même aux États-Unis, des gens qui ont été. Moi, je connais très bien le colonel US Douglas McGregor, qui a été, et j'ai travaillé avec lui. On a travaillé 3 ans à quelques mètres l'un de l'autre. Il a été directeur du Joint Operations Center de l'OTAN, c'est-à-dire du cœur de l'OTAN. Quand il parle de rapports de force, quand il parle d'opérations militaires, il sait de quoi il parle. Eh bien, lui-même, il le dit tous les jours, dans des conférences. L'Ukraine a déjà perdu la guerre depuis bien longtemps et aujourd'hui on assiste.
Et alors, comment vous expliquez justement ce décalage? Parce que ce que vous dites est absolument vrai, moi-même je l'ai vérifié. Enfin, pas dans la presse française ou chez les spécialistes français, à part certains, le général de Lavarde ou quelques autres qui pensent comme lui. Mais dans la presse anglo-saxonne, les militaires ont une position diamétralement opposée à la position des politiques. Depuis le début, en particulier, ils disent que c'est une guerre perdue d'avance. Ils n'ont pas menti. Que ce soit même, c'est-à-dire la position des militaires a toujours été modérée par rapport à l'extrémisme, disons, politique. Comment vous expliquez cette bicéphalie et le fait que le politique n'écoute pas ceux qu'il envisage envoyer à la guerre? Ceux qui savent que dans une guerre, on meurt. Ce n'est pas un jeu électronique.
Oui. Mais je pense que beaucoup de ces politiques là sont des amateurs. Hein. Et des amateurs, mais pas seulement amateurs. Ils sont surtout contaminés par les idées des néoconservateurs américains, c'est-à-dire une bande de fous furieux qui sont identifiés. Bon, je peux vous donner les noms. Hein. Mmh. Vous avez Anthony Blinken, secrétariat d'État. Vous avez son adjointe, qui s'appelle Wendy Sherman. Vous avez Victoria Nuland, évidemment. Ouais. Et vous avez au secrétariat d'État au Trésor, vous avez Madame Janet Yellen, qui concocte toutes les sanctions économiques, les paquets de sanctions, etc., et qui pense qu'elle va gagner la guerre par les sanctions, en étouffant l'économie de la Russie. Bon, elle n'y arrivera pas non plus. Mais vous avez aussi, dans les fous furieux néoconservateurs, vous avez un homme comme Merrick Garland, qui est le secrétaire à la justice, qui dirige à la fois le FBI, mais aussi le département de la justice, et qui aimerait bien traduire le président Poutine devant un tribunal pénal international pour le faire pendre. C'est de la guerre de communication et de la guerre de communication menée par des néoconservateurs américains, c'est-à-dire des fous furieux. Et alors ces fous furieux, ils ont réussi à essaimer un peu partout en Europe en particulier, hein. Et aujourd'hui, dans les gouvernances européennes, on a les mêmes fous furieux. On a les mêmes fous furieux chez nous, au ministère des Affaires étrangères. On a ces mêmes fous furieux dans l'entourage immédiat du président, etc. Au gouvernement, on a réellement des fous furieux en France, mais aussi en Allemagne. Ils ont été formés dans les mêmes écoles qu'on appelle les Young Leaders. Mmh. Ce qui explique la contamination. Hein. Et la contamination se fait également par des réseaux transnationaux qui font que un certain nombre d'individus aujourd'hui sont convaincus qu'il leur suffit de vouloir pour y arriver.
D'accord.
Les militaires, eux, ils savent très bien qu'ils n'ont pas les moyens. Ils pleurent depuis déjà 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on désinvestit en France et en Europe. On est en train de perdre on a perdu nos forces armées en 30 ans. On les a démontées. Et la sagesse de Poutine, ça a été de se rendre compte en l'an 2000 et même en 99, on va dire, lors du bombardement de Belgrade.
Absolument, oui.
Il s'est rendu compte de ce qui allait se passer. Et il s'en est rendu compte et il a immédiatement pris un certain nombre de mesures. Et depuis 23 ans, presque un quart de siècle, Poutine a préparé son pays à l'épreuve qu'il savait inévitable et qui se passe aujourd'hui.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il a préparé son pays à l'affrontement inéluctable avec avec les russophobes néoconservateurs américains. Et qui existait déjà en 2000. Hein,
absolument.
Et qui avait déjà affiché la couleur. Donc, Poutine, il a préparé son pays et son pays est prêt. Globalement, il est prêt.
Une dernière question, général de Lavarde. Après l'adhésion des pays baltes, enfin d'autres pays baltes à l'OTAN, quelle serait, à votre avis, la suite de l'opération militaire dans les prochaines semaines par rapport à la région d'Odessa et à la mer Baltique? Est-ce que on pourrait voir des choses du moins pour équilibrer les forces.
Je pense que l'OTAN se rend bien compte qu'elle n'est pas du niveau. Elle fait de ce qu'on appelle de la gesticulation. De la gesticulation dans la guerre de l'information, elle n'arrête pas de faire des déclarations sur déclarations sur déclarations qui ne mènent à rien. Et puis gesticulation des forces, on déplace, on fait des manœuvres, mais on se garde bien d'intervenir en Ukraine parce que on connaît la punition. Hein, la punition, elle viendrait très vite et elle serait efficace. Hein, alors et si vous voulez, moi, quand je regarde ce qui se passe sur le terrain, d'abord, je considère que l'Ukraine est une toute petite partie. Ce qui se passe en Ukraine est une toute petite partie d'un bras de fer gigantesque au niveau mondial. Entre deux camps, le camp de la multipolarité, mené par la Russie et la Chine, mais aussi par l'Inde, le Pakistan et tous ces pays-là qui refusent, une fois pour toutes, la vassalisation, qui refuse la soumission à l'Ouest, à l'Occident global. Donc, ce camp-là, c'est le camp qui va gagner. Il va gagner parce que leurs économies sont ascendantes, parce que leur démographie est ascendante et parce que leur économie est ascendante. Économie, démographie, enfin tout ça. Ça se voit dans les chiffres. Mmh. Hein, je le dis et je le répète sans arrêt, les États-Unis, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, faisaient à eux tout seuls 50% du PIB mondial.
Absolument.
50%.
Absolument.
Aujourd'hui, ils en sont à moins de 15%, à 15%, on va dire, du PIB mondial. Donc, ils sont passés de 50 à 15 et ils continuent de descendre. Et c'est bien pour ça qu'ils sont désespérément, ils cherchent désespérément à des moyens de s'enrichir davantage pour
maintenir le statut d'hégémonie. Ah, d'accord.
Pour garder leur statut hégémonique.
Alors, chers auditeurs, ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Je vous retrouve en compagnie de mon invité, le général de Lavarde, pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Ouadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le général Dominique de Lavarde, ancien chef situation renseignement guerre électronique à l'état-major interarmé de planification opérationnelle de l'armée française. Général de Lavarde, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Alors, la première question, elle concerne une situation importante et qui s'est produite ce dimanche. Alors, par rapport à ce que vous avez déjà initié dans la première partie concernant les questions géopolitiques, le président Recep Tayyip Erdogan a été réélu pour un nouveau mandat en Turquie ce dimanche. Alors, comment voyez-vous le résultat de cette élection en termes géopolitiques et quel pourrait être le rôle qu'on pourrait imaginer à la Turquie dans le cadre du nouvel ordre mondial multipolaire en formation ?
Alors, deux points sur cette affaire d'élection turque. D'une part, c'est une défaite de l'Occident, puisque l'Occident manifestement ne voulait pas que Erdogan puisse continuer à gouverner le pays et soutenait en coulisses son opposant, hein. Donc on l'a vu d'ailleurs aux réactions médiatiques, hein, de l'Occident. Donc l'Occident a enregistré une nouvelle gifle, comme il en a enregistré beaucoup depuis le début de l'opération spéciale, hein. On a vu la Syrie réintégrée par exemple dans le concert de la Ligue arabe. Ça aussi c'était une autre défaite une autre défaite du camp occidental qui ne voulait pas ça, hein, qui voulait isoler aussi la Syrie. Eh bien non, la Syrie s'est repartie. Et donc la Turquie, la réélection d'Erdogan doit d'abord et avant tout être perçue comme une défaite du camp occidental qui avait misé ou qui espérait une espèce de révolution colorée qui amènerait un dirigeant beaucoup plus
docile,
pro-occidental, que ne l'est Erdogan. Donc ça, c'est une défaite de l'Occident. Deuxième point de cette élection, hein, c'est le rôle, quel va être désormais le rôle de la Turquie. Donc, la Turquie, elle a toujours été à cheval, on va dire, entre l'OTAN, dont elle est membre, hein, elle est membre absolument. De l'OTAN, on va pas le dire, mais elle a jamais été très bien considérée dans l'OTAN, la Turquie. Dans certains exercices, je me souviens que les Turcs sont partis parce qu'on les traitait en ennemis, on les traitait pas en amis, alors qu'ils étaient membres de l'OTAN. Bon, la Turquie se heurte depuis plusieurs décennies au refus de l'Europe d'intégrer la Turquie dans l'Union européenne. Hein. Elle a fait des demandes d'adhésion et elle n'a jamais réussi à passer la barre. Donc la Turquie, en ce moment, elle regarde dans les deux camps. Elle regarde, bien sûr, encore un peu dans le camp de l'OTAN, mais elle regarde surtout dans le camp des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai, dont elle est membre observateur depuis très longtemps.
Et rappelons que l'Organisation de coopération de Shanghai, elle est aussi une organisation militaire, pas uniquement…
Oui, on est d'accord. C'est aussi une organisation… à vocation sécuritaire.
Sécuritaire.
C'est pas une organisation militaire intégrée. Elle n'a pas d'état-major intégré, mais c'est quand même une alliance. Et donc, on peut penser que la Turquie, avec Erdogan, va évaluer à la fin de cette guerre en Ukraine où elle adopte une position très prudente pour l'instant. Hein. Elle regarde, elle compte les points.
Mais aussi, après le sabotage de Nord Stream 1 et 2, le Turkish Stream, il est bien appelé à supplanter le rôle des deux gazoducs sabotés.
Au plus grand bénéfice de la Turquie.
Absolument.
La Turquie, elle n'est pas folle, hein, comme l'Inde aussi. Hein. Ils tirent profit des sanctions occidentale, ils reçoivent le gaz de la Russie, hein, et sans aucun état d'âme, ils n'appliquent pas les sanctions voulues par les occidentaux. Hein. Donc la Turquie, elle a fait connaître sa différence, son indépendance, sa souveraineté, on va dire. Hein. La Turquie est beaucoup plus souveraine aujourd'hui que ne peut l'être la France ou l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. Donc je pense que la Turquie va jeter de plus en plus ses regards vers les BRICS et vers l'Organisation de coopération de Shanghai, dont elle fait déjà partie en tant que membre observateur. Et elle pourrait, dans les mois, voire peut-être dans les années qui viennent, elle pourrait demander à faire partie des BRICS ou
c'est déjà dans les tuyaux. C'est déjà dans les tuyaux, ça, c'est officiellement.
Elle est déjà dans les tuyaux, mais ce que je veux dire, elle n'a pas encore franchi le pas.
Ouais.
Et les BRICS non plus n'ont pas franchi le pas qui consiste à recevoir davantage de. Pour l'instant, ils sont restés à 5, ils accueillent tout un tas de beaucoup de pays dans leur environnement proche. Mais pour l'instant, ils n'ont pas pris depuis déjà 4 ou 5 ans, ils n'ont pas pris de nouveaux candidats comme membres à part entière. Le seul candidat qui était admis cet an dernier, c'est l'Iran, et les processus sont assez longs, hein.
Ouais.
Processus d'adhésion, et ils ont raison. Ils ont raison de ne pas précipiter les choses comme l'a fait l'Europe ou l'OTAN en agglomérant tout un tas de pays qui ne sont pas forcément compatibles les uns avec les autres. Hein. Ils ont fait leur chemin tranquillement, et ce sont des organisations qui commencent à produire toute leur puissance aujourd'hui.
D'accord.
Il faut quand même considérer que les BRICS aujourd'hui sont économiquement plus puissants en PIB et parité de pouvoir d'achat que ne le sont les pays du G7.
Oui, oui.
Les BRICS supplantent aujourd'hui le G7.
Mmh.
Et avec un PIB global qui est à 31%, je crois, du PIB
mondial,
PIB mondial,
c'est
à
ça.
5 pays.
C'est ça.
C'est-à-dire que si les BRICS, et ils vont le faire, je pense, accueillent de nouveaux candidats comme membres à part entière, un ou deux, par exemple, par année, petit à petit, hein, donc un ou deux cette année, en août, au congrès annuel des BRICS, leur PIB va distancer très vite celui du G7. Le G7 va devenir marginal. Le G7, c'est 30% du PIB mondial. Ça veut dire que 70% du PIB mondial n'est pas
celui du
G7. Dans les pays du G7.
Absolument. Bien.
Et la puissance bascule de plus en plus. Il y a tout un tas de pays qui observent les grands équilibres en train de se modifier, hein, et qui se disent bon, il y a un jour ou l'autre, il faudra qu'on se mette dans le camp du plus fort, et le camp du plus fort, celui
par
qui est en train
ça,
de
par rapport à ça, général de Lavarde, j'aimerais bien votre avis sur une question qui me semble importante. Bon, il y a le rôle de la Turquie via ce Turkish Stream qui certainement va faire le choix de jouer un rôle central dans l'exportation du gaz, déjà pour elle-même, mais aussi pour l'exportation du gaz vers l'Europe, puisque les autres n'en veulent pas, à part le gazoduc qui passe par l'Ukraine, et donc l'Ukraine continue à toucher des dividendes chaque jour, rappelons-le quand même. Bien. Alors, mais la Russie, actuellement, elle a réussi à détourner complètement ses exportations de gaz et de pétrole vers la Chine et l'Inde.
Et l'Inde.
Ouais. Alors, c'est des contrats, c'est sur ça que j'ai envie d'avoir votre avis. Ce sont des contrats à long terme avec des prix stables. Donc, oui. Je ne sais pas si les gens imaginent quel est le gain en compétitivité, si par exemple la Chine a un gaz ou un pétrole qui lui permet d'alimenter son industrie, 30 ou 40% inférieur au prix du marché avec lequel les Européens et les Américains vont acheter. Oui. C'est sur le marché spot.
Vous avez tout à fait raison.
Mais maintenant, ma question générale. Nous ne comprenons pas, ici en Russie, pourquoi les Européens, les dirigeants, ont à ce point fermé les yeux ou ont été aveuglés, on ne sait pas, à tel point que... C'est clair, il ne faut pas sortir d'une grande école pour comprendre qu'ils ne se sont pas tirés une balle dans le pied, mais c'est dans la tête.
Oui, vous avez tout à fait raison. Hein. On est en train d'aider notre concurrent, le concurrent de l'Occident global,
c'est bien les BRICS,
l'Organisation de coopération de Shanghai.
Quelles étaient vos attentes?
Ces organisations
nos impressions
par la Russie et par la Chine, on est en train de leur donner
nous-mêmes
un plus de compétitivité, comme vous l'avez très bien expliqué.
Très heureux, au-delà de toute imagination. En raison de la participation de nos pays membres, et bien sûr de nos affiliés qui sont venus du monde entier, et de l'attention que les gens ont portée tout au long des sessions de l'Assemblée générale. Je suis également heureux des commentaires positifs que j'ai reçus de nos
Américains qui m'ont parlé des bons moments qu'ils ont passés à Abuja. L'énergie,
la réception était bonne,
tout bénef,
tout était parfait.
Du moment qu'ils peuvent exporter leur gaz 4 fois plus cher,
la famille, la communauté de l'Union africaine de radiodiffusion ne cesse de s'agrandir. Vous avez donc ici, à cet événement, des représentants de différents continents et même de différents pays de l'Europe, la Chine et bien sûr la Russie. S'agit-il donc, à votre avis, d'une tendance positive et devrait-elle être développée?
Il y a un point qu'il ne faut pas oublier, c'est la dette.
La dette, oui, je pense que c'est une tendance positive parce que le monde est devenu un village global.
31 000
et que nous
400 milliards, c'était le plafond qui a été crevé.
Et je pense que le fait de se réunir en grand nombre comme cela, en provenance de tous les continents du monde, est un plus pour l'Union africaine de radiodiffusion. Et c'est quelque chose qui devrait être encouragé parce qu'il y a une pollinisation croisée des idées et la façon dont les gens partagent
en français et le global en général. Aller à paroisse 150
c'est une idée bienvenue
PIB,
et j'aimerais encourager l'Union africaine de radiodiffusion à poursuivre
dans cette voie. Elle est à plus de 100 000 milliards de dollars. Plus de 100 000 milliards de dollars avec tout un tas de choses qui ne sont pas provisionnées, les retraites, etc. Hein, donc, ce sont des difficultés à venir. Ce système-là ne pouvait tenir que parce que le dollar était imprimé sans compter par des presses américaines, hein, et qu'il n'était gagé sur rien. Aujourd'hui, l'opération spéciale en Ukraine a changé complètement la donne et l'avènement en cours de la multipolarité va changer totalement et va plonger les économies occidentales dans d'immenses difficultés.
D'accord. Bien, alors la deuxième question concerne le sommet des États de la Ligue arabe. Alors, le président Zelensky a été l'invité surprise de ce sommet qui s'est tenu la semaine dernière en Arabie Saoudite. Alors, comment analysez-vous cette participation ? Et mais la question pour moi la plus importante, quelle évolution voyez-vous justement à cette région sensible du monde à l'aune du rapprochement irano-saoudien dans le cadre de coopération avec les pays des BRICS, notamment sur le plan énergétique ?
Oui, je crois que la multipolarité a réussi à montrer qu'elle était capable de générer la paix. Sous l'égide de la Chine, on a vu effectivement ce rapprochement saoudien, Arabie Saoudite, Iran, qui est encore une gifle. C'est une gifle à l'Occident global. L'Occident global ne voulait pas d'un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran.
Et d'ailleurs, la guerre au Yémen, tout de suite, un plan de paix a été engagé.
Exactement. Et pareil pour la Syrie. La Syrie qui, en quelques mois, s'est réconciliée. Enfin, c'est pas la Syrie qui s'est réconciliée, c'est tous les pays qui l'avaient banni de la Ligue arabe, qui ont fait marche arrière et qui reviennent, qui sont revenus vers la Syrie et qui ont fait... Ils ont accueilli à nouveau la Syrie comme, et ça, les néoconservateurs américains, c'est encore une gifle pour eux. Ils peuvent pas admettre que le monde entier aujourd'hui n'a plus peur d'eux. On n'a plus peur de dire que on ne se soumet plus aux diktats des néoconservateurs américains. Donc, moi, je suis très optimiste. J'étais en Syrie il y a 15 jours, pour aller voir un peu où en était la situation. J'ai passé une dizaine de jours et j'ai vu un peuple extrêmement résilient, c'est-à-dire qui est capable de... qui a d'abord résisté pendant près de 12 ans à une guerre qu'on lui a imposée. C'est l'Occident qui a été cherchenoise et semé le désordre dans cette partie du monde, généré le chaos pour essayer de rebâtir un Moyen-Orient plus favorable à l'Occident, c'est raté pour Israël, qui était partie prenante dans le plan des néoconservateurs, et qui est bien sûr très très proche des néoconservateurs américains. Ils souhaitent garder la poule aux œufs d'or. L'Amérique pour Israël, c'est la poule aux œufs d'or, et Israël souhaite que cette poule aux œufs d'or reste la plus puissante, reste hégémonique le plus longtemps possible, parce que c'est sa sécurité qui est directement liée à la puissance américaine. Tout ce qu'ils ont tenté au Moyen-Orient en ce moment est en train d'échouer. Et échec vis-à-vis de l'Iran, échec en essayant, ils ont essayé de diviser cette région, ils ont essayé de diviser l'islam entre sunnites, chiites, et de faire en sorte que les gens s'autodétruisent, se battent entre eux. Eh bien, à la fin des fins, c'est terminé, la partie est en train de se terminer, et grâce soit rendue encore une fois à la Russie, parce que si la Russie n'était pas intervenue pour aider le président Bachar el-Assad, je ne suis pas sûr qu'il ait pu résister à l'assaut.
Mais là aussi, dans ce cas, nous voyons, donc, si on l'on rajoute le potentiel énergétique de la Russie au potentiel du Moyen-Orient, à la puissance industrielle de la Chine et de l'Inde, donc c'est bon. Je crois que, comment dire, populaire, il n'y a pas photo.
C'est plié, oui. Non, mais vous avez totalement raison, ce que vous dites est totalement juste. Les ressources naturelles, elles sont où ? Elles sont tout ce qui est pétrole, c'est quasiment contrôlé aujourd'hui par la Russie. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Koweït, tout ça, ce sont des pays qui se sont rapprochés considérablement de la Russie. Je ne parle pas, bien sûr, du Venezuela, pays producteur aussi, de l'Iran, pays producteur aussi, du Nigeria, pays producteur aussi. Donc, tous les pays producteurs, quasiment à l'exception des États-Unis, sont très proches de la Russie. Donc, la Russie aura l'énergie, pas chère. La Russie aura les matières premières, pas chères, parce qu'elle est très liée aujourd'hui à l'Afrique, hein, et l'Afrique, réciproquement, est liée à la Russie. Donc, vous avez raison de dire que toutes les potentialités de demain, elles sont entre les mains, elles ne sont plus entre les mains des États-Unis et des néoconservateurs, c'est fini. La partie est pas encore totalement terminée, mais est en train...
Mais la dynamique du changement du monde sur le plan géopolitique est clairement lancée, il n'y a pas de...
C'est clairement en faveur des BRICS, du monde multipolaire, et ce monde que les... ça plaise ou non... aux néoconservateurs américains, ça va se faire, et ça se fait, et le dollar va perdre de sa puissance, et peut-être même qu'il y aura une crise majeure, hein, qui a été annoncée par de nombreux experts, hein, chez nous en France, un dénommé Attali, Jacques Attali, a prédit la crise pour l'été prochain, là, pour dans quelques mois. Et puis aux États-Unis, un Friedman, patron de la CIA de Londres, a eu exactement le même diagnostic. Hein, et la faillite des États-Unis est en permanence sur le fil du rasoir. On va voir le temps que ça va durer, mais pour l'instant, la dynamique, comme vous l'avez dit, elle est du côté des BRICS et de la multipolarité, c'est incontestable.
D'accord.
Et ça s'aggrave de jour en jour pour l'Occident. Hein. Alors, ça prendra peut-être un an, deux ans, trois ans, mais ça va se faire.
Alors, depuis le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, nous l'avons déjà un petit peu engagé, cette discussion, l'organisation de l'économie mondiale, centrée sur le dollar, se fragmente en plusieurs circuits, notamment pour la commercialisation du pétrole et du gaz essentiel à l'industrie, notamment européenne. Et les BRICS et d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Égypte, l'Algérie, d'autres pays d'Asie du Sud-Est semblent opter pour d'autres monnaies de paiement comme le rouble, le yuan, la roupie et autres devises nationales. Alors, moi, ma question, sachant que le cœur du système actuel réside dans ce qu'on appelle les pétrodollars, ou la labellisation des hydrocarbures et de leurs dérivés en dollars. Alors, cette dynamique ne pourrait-elle pas rendre toute la pyramide d'argent correspondant à ce marché en dollars sans valeur du fait que la majorité s'y détourne?
Une fois de plus, vous venez de dire une chose tout à fait juste, hein, c'est-à-dire que de plus en plus, le dollar américain va se transformer en billet de Monopoly, du jeu de Monopoly, c'est-à-dire sans valeur, sans rien pour gager cette monnaie. Et le jour où les Américains perdront la suprématie du la monnaie de réserve, qui est actuellement le dollar, le jour où une majorité d'États refusera d'adopter dans les échanges le dollar, la puissance américaine sera laminée et terminée par une crise énorme. Donc, et ils le savent, et les Américains le savent. Moi, je discute avec un certain nombre d'experts américains qui sont tous et qui le disent tous dans leurs conférences, hein, que ce soit McGregor, Mearsheimer, Hersh.
Seymour Hersh, ouais.
Ouais, Seymour Hersh. Ils sont tous sur la même longueur d'onde, hein, et il y en a d'autres. Hein,
D'accord.
Rand Paul.
D'accord. Bien. Alors, Une dernière question avant de passer à une question quand même qui me tient à cœur et j'aimerais bien profiter de votre présence pour vous la poser. Alors, la dernière question, disons, qui concerne le sujet, c'est en fin juillet se tiendra à Saint-Pétersbourg le sommet Russie-Afrique. Alors, dans ce contexte, comment analysez-vous la résilience de l'économie russe donc par rapport à toute la situation et pensez-vous que les pays africains ont-ils ont raison de miser sur une coopération renforcée avec les BRICS qui projettent de créer une monnaie commune lors de leur prochain sommet en Afrique du Sud?
Oui, bien sûr. Là encore, les pays africains ne sont pas, idiots. Hein. De plus en plus, ils se rendent compte que la Russie et la multipolarité surtout est en train de gagner tranquillement, sereinement. Et ils se rendent compte surtout que le dollar est en train de perdre son rôle. Et donc, il ne faut pas être le dernier à quitter le
bateau, à sauter du bateau, à prendre la barge de sauvetage. À prendre le bateau de sauvetage, la petite barge de sauvetage.
Il ne faut pas être le dernier à prendre le bateau de sauvetage. Et les pays africains, comme beaucoup de pays, et je pense que même des pays de l'Union européenne vont finir par prendre le bateau de sauvetage avant qu'il ne soit trop tard. On voit certains pays de l'Union européenne être très réticents, de plus en plus réticents pour les sanctions économiques. Moi, je crois que la résilience de l'économie russe, elle est manifeste. Hein. Je regardais hier ou avant-hier la participation au sommet économique qui vient d'avoir lieu pour les pays eurasiatiques. Mmh. Le deuxième sommet économique qui a eu lieu à Moscou, il y a quelques jours. Hein. Mais la participation au premier sommet de 2022 était, en mai 2022, le premier sommet eurasiatique pour l'économie, là, avait regroupé 2500 participants et 34 États. Cette année, c'est pas 34 États. On est en pleine guerre.
Oui.
C'est 50 États et 2700 participants. Donc, il y a de plus en plus de participants, bien que les États-Unis fassent et l'Occident global fassent pression pour empêcher les gens de participer à ce genre d'événement. Il y a de plus en plus de participants, il y a de plus en plus d'États, 50 États qui eurasiatiques, hein, qui sont allés à ce sommet économique eurasiatique. C'est considérable. Ça veut dire que ce qui va se passer pour l'Afrique, ça va être pareil. Ça va être pareil. Le sommet Russie-Afrique va faire exploser les compteurs.
D'accord.
Et les derniers pays africains qui n'auront pas compris et qui resteront dans le camp occidental, ce sera les dindons.
D'accord. Une dernière question, général de Lavarde. Et je veux vous poser une question sur le rapport de deux commissions d'enquête du Congrès américain sur l'affaire, ce qu'on appelle l'affaire des données de l'ordinateur d'Inter Biden. Je crois que, je pense quand même, j'ai le flair que vous connaissez bien le sujet. Donc, alors, ce qui est frappant, c'est que, comme dans l'affaire des gazoducs Nord Stream 1 et 2, le New York Times a essayé de discréditer toute la logique et tout le processus d'enquête qui a été mené sur cette affaire-là, de la même façon qu'il a tenté de ridiculiser l'enquête de Seymour Hersh sur le sabotage des gazoducs 1 et 2. Et Seymour Hersh, le lauréat du prix Pulitzer, c'est une sommité mondiale, et c'est pas la peine d'en faire beaucoup. Sa réputation parle d'elle-même, mais aussi c'est que cette enquête, c'est que elle s'est intéressée au rôle de la lettre écrite par ce qu'on tient aux fonctionnaires des renseignements américains pour dire que cette tentative de salir soi-disant entre guillemets Inter Biden était une opération de désinformation russe pour aider Donald Trump à se faire élire. Qu'est-ce que vous en pensez des conclusions de ce rapport et peut-on encore continuer à donner crédit à ce que disent ces renseignements, alors que, sachant qu'il y a des guerres qui ont été lancées sur la base de choses qui ont été données par eux-mêmes.
Bon, si vous voulez, les médias américains, hein, c'est clair et net, et ils sont dans le camp, ce sont des outils aux mains des néoconservateurs. Je vous ai cité 7 noms de néoconservateurs, mais les néoconservateurs sont eux-mêmes mis en place au poste qu'ils occupent par ce qu'on appelle l'État profond américain. Mmh. L'État profond américain contrôle. Il y a derrière des milliardaires qui a, vous savez, il y a 700 milliardaires aux États-Unis. Hein. Il y en a donc suffisamment pour pouvoir alimenter et contrôler les médias, contrôler l'État profond. Hein, et ces gens-là contrôlent le New York Times, ils contrôlent le Washington Post, ils contrôlent CNN, ils contrôlent… Donc, ils ont leur agenda, c'est eux qui décident cet État profond, qui décide qui va être président. Ils contrôlent les journaux, mais ils contrôlent également les ministères clés, les 4 ministères clés. Ils contrôlent également la CIA. La CIA est contrôlée par cet État profond. Hein, et donc, tous ces gens se coordonnent et font en sorte que leur agenda, c'est-à-dire leurs objectifs, soient tenus. Et donc, ils racontent, ils construisent des narratifs, des histoires. Ils construisent des histoires pour essayer de faire croire au grand public. Et ils ont tous les médias pour la puissance médiatique pour donner du crédit, essayer de donner du crédit à leurs histoires. Mais de moins en moins aujourd'hui, dans le monde entier, hein, les médias de qu'on appelle les médias que j'appelle moi les médias de grand chemin, c'est-à-dire les médias contrôlés par des États profonds, hein, ils ne sont plus crus par les populations, hein, donc l'histoire d'une Russie intervenant dans les élections américaines, je connais beaucoup plus d'histoires, moi, sur les Américains intervenant dans les élections, dans toutes les élections,
en Europe,
hein, et même dans les dernières élections turques, hein, je suis persuadé qu'il y a eu que l'opposant à Erdogan n'aurait jamais fait le score qu'il a fait s'il n'avait pas été soutenu massivement par des crédits occidentaux, hein, des crédits notamment des États-Unis. Hein, bon, ils ont raté leur coup, là encore. Le coup ne réussit pas à chaque fois. Hein. Vous savez, les élections, il y a eu deux grands organismes internationaux, hein, qui ont été pris la main dans le sac à manipuler des élections au niveau mondial. C'est Cambridge Analytica. C'est un scandale qui a éclaté il y a 4-5 ans déjà. Hein, j'ai plus la date en mémoire, mais avec le PDG Alexander Nix qui s'est fait prendre en caméra cachée en train de divulguer les méthodes de Cambridge Analytica en liaison avec Facebook pour essayer de capter les comptes personnel de Facebook, hein, et d'essayer d'influencer les électeurs par les réseaux sociaux.
D'accord.
Alors ça, c'était pour le Brexit et pour l'élection de Trump en particulier, mais également beaucoup d'autres élections dans le monde. Hein, je crois qu'il y avait une centaine d'élections qui ont été gagnées comme ça par l'intervention d'une usine à manipuler les élections. Et aujourd'hui, il y en a une, c'est une société israélienne qui s'appelle Tim George. Tim George, je crois que d'ailleurs même dans vos colonnes, il en a été, je ne sais pas si c'est Sputnik ou Russia Today, qui en a parlé à un moment et qui a mis au jour ces manipulations faites au niveau mondial. Hein. C'est des gens qui interviennent dans des pays qui ne sont pas les leurs. C'est des sociétés privées qui interviennent dans des pays qui ne sont pas les leurs. Manipuler les élections.
Bien. Alors, Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Général Dominique Delavarde, je vous remercie pour cet entretien passionnant et riche en informations. J'espère que nous avons réussi à poser toutes les problématiques concernant et découlant de l'opération spéciale russe en Ukraine, bien que la dynamique ait été lancée bien avant et ses probables évolutions dans le futur. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
Et merci à vos auditeurs d'avoir eu la patience de m'écouter.
C'était le général Dominique Delavarde, ancien chef situation renseignement guerre électronique à l'état-major interarmé de planification opérationnelle de l'armée française. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche. Une émission présentée par Sputnik Afrique.